sûrement qu'une telle storiette ne méritait pas tant. Pour moi, c'est une bergère qui me la raconta, qui de son père et sa mère ne connaissait que ça. Donne-moi ton cœur, Louisette, donne-moi ton cœur, et puis donne-moi le reste, n'aie pas peur.
Bonjour à toutes et à tous. Vous avez reconnu certainement cette petite musique de Charlie Brown qui annonce notre émission. Il est 16h57, nous avons un petit peu d'avance. Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023. Vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire. Tout va bien, c'est un plaisir de vous retrouver en direct. Au fil des pages, eh bien, c'est toujours une émission proposée par des passionnés du livre, de la lecture. Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et aujourd'hui notre invité Thierry Maricourt pour parler de son livre « Une rage de lire », le jeune Michel Ragon, paru aux éditions L'Échappée. De 17h à 18h30, les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois, vous pouvez nous écouter sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. Et en plus, sur le net, vous pouvez vous connecter sur le site de Radio Libertaire. En direct et en podcast, on nous écoute, on nous réécoute. Avant de parler de nos lectures, Frédéric, quelques annonces, au moins une.
Oui, tout à fait. Dans le cadre de ces animations de l'Université populaire du 11e arrondissement, le groupe Commune de Paris vous propose une séance, le ciné de la Commune. Et ce sera donc deux documentaires, Esperanza ou l'école des pêcheurs, suivi de Paul Robin et l'orphelinat de Saint-Puis. Alors, quand est-ce que ça a lieu? C'est le mercredi 18 octobre, donc la semaine prochaine, à partir de 20h, et où ça se passe? À Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, pardon. Le métro, je vais y arriver, le métro c'est Oberkampf ou Fille du Calvaire, donc le 18 octobre à 20h, vous pourrez nous retrouver pour cette projection suivi d'un débat. Voilà, je repasse le micro à Francis.
Merci Frédéric. Alors, on vous attend évidemment à cette adresse et on attend aussi vos courriers, vos propositions de livres. L'adresse postale, c'est bien évidemment la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et vous adressez ça, l'ensemble, à l'émission Au fil des pages. Aujourd'hui, eh bien, avant de recevoir Thierry Maricourt par téléphone, puisqu'il est quelque peu souffrant, nous allons présenter un livre passionnant par un côté intimiste avec les personnes concernées, c'est-à-dire ces femmes et ces hommes d'Arménie qui ont échappé au massacre et à la haine à l'égard de leur peuple. Le lecteur rentre dans leur vie et il rentre aussi dans le travail d'une historienne. Et la découverte de ces documents, eh bien, c'est vraiment extraordinaire. Vous tournez les pages jaunies et puis se dire que ces personnes qui ont fui et qui ont tenté de se reconstruire, eh bien, elles sont là, sur ces pages. Et c'est la passion de l'archive qui est très bien rendue dans ce livre pour parler et faire parler ces réfugiés. On découvre les documents, les écritures, la sécheresse des informations administratives. On trouve aussi des fautes. On trouve la vie. Tous les historiens vous le diront toujours, l'émotion de toucher des documents originaux et ce que raconte très bien Anouch Kount. Ce n'est pas une clé USB. Vous avez le nom, le prénom, date et lieu de naissance, nationalité d'origine. Et déjà, l'historien sait le pays natal quitté et entrevoit une trajectoire qui, de cette manière, il sent se former la durée. Vous découvrirez de très belles pages sur ces écrits. Dans ces pages quadrillées, je cite, « dans ces cases emmaillées des histoires arméniennes d'exil, toutes frappées au coin de la violence. N'oublions pas, un tiers de survivants du peuple arménien après le génocide. » Je vais vous donner lecture page 12. Voilà encore ce que permet le territoire du crayon, figuré par les liasses de certificats, reconnaître qu'un imaginaire s'exerce au contact de l'archive, entre ce qui est montré, lisible, attesté, et ce qui demeure absent, effacé ou informulé. La faculté d'imaginer contribue toujours à l'effort d'interprétation. Elle part même en éclaireuse sur la voie de la compréhension historique, comme le relève un historien, Georges Didier Huberman. Sans elle, saurions-nous écrire comme nous le faisons sur des mondes révolus dont certains sont difficilement observables. Les photos du cahier central montrent les visages, les regards, les vêtements, la pauvreté. Je vous livre encore un extrait. Sur une sélection. Fillette, quelques commentaires comme cela. Fillette aux boucles emmêlées, dans un pull trop grand pour elle, un léger pli d'amertume aux lèvres. Homme, à la mise soignée, devant un mur grossier. Femme, au manteau de fourrure jeté sur les épaules, tête de porc impériale. 19 ans, arrivé parmi les 70 orphelins, le regard encore halluciné. Et vous en avez comme ça toute une série. Comment obtenir un certificat? La Turquie ferme la porte. Des apatrides oubliés dans les autres pays veulent reconnaître la... des apatrides oubliés par les autres pays qui veulent reconnaître la Turquie dite moderne. C'est là qu'apparaissent les passeports Nansen, du nom de ce diplomate norvégien. Nous avions présenté sa biographie dans une précédente édition. Alexis Génie, le passeport de Monsieur Lansen aux éditions Paul Sand en 2022. J'aime beaucoup ce travail, cette leçon d'historienne dans le dépouillement des archives et la réflexion pour les comprendre. Une mention particulière est destinée aux enfants. La question de la recherche de leur prénom, de leur souffrance, l'arborescence des liens familiaux dans ces villages de montagne. Et puis on a l'ordre de déportation. En 1915, les rues, les maisons ont été vidées de leurs habitants, une par une. Tout notre quartier est en mouvement, se souvient une rescapée qui était, alors enfant, accrochée à sa mère, à sa poupée. Le 21 juin est tombé l'ordre général de déportation pour tous les Arméniens, sans exception. De partout furent emmenés des groupes de parents, amputés le plus souvent des hommes, que les gendarmes ont fait exécuter sur place ou dans les alentours, immédiatement. Ces groupes familiaux, jetés par la force sur les routes, ont formé les uns avec les autres des convois de voisins. Plus tard, les survivants pourraient attester de la mort d'un tel ou d'une telle dans la mort de masse. Terrible, terrible propos, et pourtant c'était la vérité. Et puis, il y a les familles d'accueil. Et oui, pour ceux qui ont échappé au désert, à la mort dans le désert, il y a les familles d'accueil. L'hébergement à Marseille. Certains remonteront le long de la ligne ferroviaire PLM, Paris-Lyon-Marseille, le départ vers l'Amérique pour d'autres. Et certains d'entre nous, enfin, nous savons tous qu'il y a une forte communauté arménienne à Marseille, qu'il y en a évidemment à Lyon, notamment en Villeurbanne. Il y en a aussi en région parisienne, à Alfortville et sur les communes de Clamart et d'Issy-les-Moulineaux. Donc j'incite vraiment à lire ce livre qui est très intéressant, d'autant plus intéressant que Anouch Kund a reçu aux Journées de l'Histoire de Blois, donc qui se sont déroulées le week-end dernier, le prix Augustin Thierry pour son livre. Donc vraiment un livre qui allie une connaissance du massacre et de l'exil de ces Arméniens et qui est une grande leçon d'histoire. Frédéric, est-ce que nous pouvons passer à le chant arménien que j'avais sélectionné? Je me garde bien de prononcer le titre. Frédéric, vas-y. Frédéric est en train de chercher son... Vas-y.
je reprends le micro, c'est Frédéric. Voilà, donc le titre que vous venez d'écouter, c'était Gerug Ner, un chant arménien. Par contre, là, chers auditeurs et chères auditrices, je vais vous présenter un livre. Un livre, oui, parmi tant d'autres, parce que cette semaine, pour vous sortir de la frénésie médiatico-punaisière, oui, je ne savais pas que la question punaisière deviendrait un jour un sujet politique de haute importance et même déclenchant des propos racistes d'un chroniqueur. Vous avez certainement deviné qui. Bref, pour que nous revenions à des choses plus intéressantes, je vais vous présenter le livre de la philosophe Simone Weil, « La condition ouvrière ». Simone Weil travailla à l'usine sur chaîne et a écrit sur ce moment de vie, dans les années 1930. Ce livre n'est pas sans rappeler le livre « L'établi » de Robert Linhart, qui lui a fait la démarche volontaire de travailler sur chaîne, une quarantaine d'années plus tard. Simone Weil décrit son travail en toute simplicité, une description factuelle, commentée par elle-même. La répétitivité des gestes, les petits chefs, la précarité, des salaires très bas, l'incertitude de pouvoir finir le mois, payer son loyer, payer sa nourriture, l'ambiance monotone et mortifère, la fatigue qui entraîne la disparition de la pensée critique sur sa propre condition. Près de 100 ans après l'écriture de ce livre, la condition ouvrière est restée de façon frappante la même. Certes, les chaînes de fabrication se robotisent, de nouveaux métiers sont nés, mais toujours aussi répétitifs, avec son lot de mépris de classe, de petits chefs et petits chefs aux mentalités médiocres, mesquines, et puis cette sempiternelle pression pour vous extorquer, plus de rendement, et quoi que vous fassiez, l'erreur, la faute, vous retombe toujours dessus, alors que c'est l'organisation du travail qui est défaillante. Et puis, l'espoir de la grève de 1936, avec une certaine acuité, un réalisme, cette joie particulière d'enfin inverser les rôles, de détenir l'espace de quelques jours la possibilité de faire ployer le patron. De plus, Simone Weil avance quelques pistes de réflexion pour améliorer la condition ouvrière. Comme je l'ai dit plus haut, ce livre reste d'une actualité criante, un livre de poche qui pour moi est un classique de la description de la condition ouvrière, à classer peut-être dans la littérature prolétarienne. Un livre de poche accessible à tous, à tous les porte-monnaies. Donc je vous rappelle le titre et l'autrice, Simone Weil, La condition ouvrière, édition Paillot-Rivage, 6,60 euros. Voilà, je vous dis merci et vous dis à bientôt pour un autre livre et je repasse le micro à Francis.
Alors effectivement, Frédéric vient de présenter un texte fondamental, émouvant à la lecture, qui montre la dureté de la condition ouvrière et qui a été écrit par une intellectuelle qui est allée vivre dans les ateliers et en a tiré ce texte. Je trouve que en ces temps d'inquiétude et de difficultés sociales, c'était bien de reparler de ce livre vraiment qui est important. Et puis, si j'ai parlé de la situation des Arméniens, évidemment, ce n'est pas dépourvu de tout lien avec ce qui s'est malheureusement passé dans le Haut-Karabakh. Il y a très peu de temps, et c'est déjà oublié parce qu'on a d'autres drames sur la planète, et pas très loin d'ailleurs de toujours la Méditerranée. Peut-être que avant d'aller vers l'intervention, la rencontre avec Thierry Marécourt, Agnès, on pourrait penser à Lewis Carroll, on pourrait penser à un livre un peu qui va nous détendre, qui va nous faire rêver. On est dans un monde étonnant avec Lewis Carroll.
Tout à fait. Le livre en question s'appelle « De l'autre côté du miroir » et « Ce qu'Alice y trouva ». C'est une nouvelle traduction de Françoise Armengaud et Marie-Claire Pasquier. Et c'est paru aux éditions La Bibliothèque. Lewis-Carroll est le nom d'écrivain de Charles Ludwig Dodgson. C'est un romancier, un essayiste, un photographe amateur et professeur de mathématiques britanniques. Né en 1832 et décédé en 1898. Il est principalement connu pour son roman Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, qu'il écrit en 1865, et sa suite De l'autre côté du miroir en 1871. Et c'est à la demande d'une vraie petite fille, justement prénommée Alice, que Lewis-Carroll écrira l'histoire d'Alice, qu'il lui racontait de vive voix, et qui fut publiée en 1865. Qui ne connaît pas ce conte, cette rencontre d'une petite fille avec un lapin blanc aux yeux roses, vêtue d'une redingote et ayant une montre à gousset qui entraîne Alice dans son terrier. De ce voyage interminable, elle rencontrera une galerie de personnages inattendus et retors, et se retrouvera confrontée à des situations paradoxales, absurdes et bien bizarres. Le succès de ce livre lui inspirera la suite de ce conte, La traversée du miroir, beaucoup moins bien connu. Une nouvelle traduction, De l'autre côté du miroir et ce qu'Alice y trouva, vient de paraître aux éditions de la Bibliothèque, composée par Françoise Armengaud pour le récit et Marie-Claire Pasquier pour les poésies. C'est Lucille Germanang qui illustrera les chapitres de ce conte, dans l'esprit des éditions du passé que Lewis-Carroll créait, illustration précieuse quelquefois pour s'y retrouver. Françoise Armengaud a longtemps enseigné en université la philosophie et l'histoire de l'art, avant de se consacrer à la poésie et aux ouvrages destinés aux enfants. Quant à Marie-Claire Pasquier, elle est professeure de littérature américaine à l'Université de Paris-Nanterre et auteure de nombreuses traductions. En fait, dans l'histoire, on retrouve Alice prête à suivre tous les chemins de l'imaginaire en jouant avec ses chatons noirs et blancs. C'est ainsi qu'Alice se baladera au-delà du miroir, comme sur les cases d'un échiquier noir et blanc. Jeu que chérissait Lewis-Carroll, les ruisseaux délimitant les cases, la petite fille en sautant les ruisseaux sera d'abord un pion avant d'atteindre la dernière case. De l'autre côté du miroir est une histoire fantastique où l'atmosphère est intensément onirique. Le temps autant que l'espace se retrouve inversé. Je cite... La reine se mit à pousser des cris si perçants et retentissants qu'elle ne put terminer sa phrase. « Oh, oh, oh !» s'écriait la reine en secouant la main comme si elle avait voulu la détacher du bras. « Mon doigt saigne ! Oh, oh !» Ces cris ressemblaient tellement au sifflement d'une locomotive qu'Alice se boucha les deux oreilles. « Mais qu'avez-vous ? » demanda-t-elle dès qu'elle pensa avoir une chance de se faire entendre. « Vous vous êtes piqué le doigt ?» « Je ne me suis pas encore piqué, dit la reine, mais je vais me le piquer bientôt. Oh, oh, quand pensez-vous que cela va arriver ?» demanda Alice, qui avait très envie de rire. Le non existant, les animaux, les fleurs parlent, et il y a des êtres humains dans des situations impossibles. Tout est considéré comme admis, le sens de la morale, l'esprit de la logique. Je cite... Essayez de faire une soustraction. Prenez un chien, ôtez-lui son os. Que reste-t-il ? Alice réfléchit. L'os ne restera pas si nous l'ôtons. Le chien ne restera pas non plus. Il viendra me mordre. Et je suis certaine que moi, je ne resterai pas à attendre qu'il me morde. Vous pensez donc qu'il ne restera rien ? Demanda la reine rouge. Oui, je crois que c'est la bonne réponse. « Comme d'habitude, vous vous trompez. y restera la patience du chien. Mais je ne vois pas comment. Eh bien, écoutez un peu, dit la reine rouge. Le chien perdra patience, n'est-ce pas ? C'est bien possible, répondit prudemment Alice. Alors si le chien s'en va, s'exclama la reine, la patience qu'il aura perdue restera. Bref, le verbe, la phrase, la poésie, le chant est inversé, les mots sont construits sur des émotions et sont quelquefois indéchiffrables ou paraissent être en dehors du contexte. Dans la rencontre avec Humpty Dumpty, il y a de fortes discussions à ce sujet qui se concluent ainsi. Je cite. Lorsque moi j'emploie un mot, répliqua Humpty Dumpty d'une voix suffisante, il signifie exactement ce qui me plaît qu'il signifie, ni plus ni moins. La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire. La question, répliqua Humpty Dumpty, est de savoir qui est le maître. Un point, c'est tout. Bref, ces contes sont une parodie des acteurs politiques de cette époque victorienne où les contestations sociales lourdes sont réprimées et déboutées par le régime. Toujours est-il que ce style de non-sens inspirera bien des écrivains et artistes de l'époque dadaïste, ainsi que le personnage d'Ubu d'Alfred Jarry. De l'autre côté du miroir, et ce qu'Alice y trouva est une promenade fantastique et très poétique que je vous invite à lire. Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, et ce qu'Alice y trouva, nouvelle traduction de Françoise Armengaud et Marie-Claire Pasquier aux éditions La Bibliothèque.
Merci Agnès. Frédéric, nous n'avons personne encore en ligne. Bien, alors, je voudrais vous présenter, toujours dans cette première partie de cette première demi-heure, un livre qui s'appelle « Rhapsodie balkanique », qui, derrière le roman, c'est un roman, aborde des questions sociales, là aussi, un peu comme Agnès l'a évoqué dans le livre de Lewis Carroll. Il y a toujours une démarche, une dimension politique. Nous sommes en Bulgarie, là, dans le livre « Rhapsodie balkanique ». Nous sommes en Bulgarie, dans un village au début du XXe siècle. Myriam, 1924, la vie d'une femme. Le texte débute avec cet événement majeur de la vie d'une femme. Vous lirez. Le livre est publié aux éditions des Sirtes. Il vient de sortir. Le père est épicier. La mère élève les enfants. Myriam est une de leurs filles. Neuf enfants, avec ceux qui sont morts, dont les noms sont égrenés par une femme qui souffre et qui clame sa souffrance. La mère souffre, et vous verrez ce que cela va la conduire à faire. C'est la ville d'un village. Tout le monde se connaît, vit sous l'autorité du pope. La religion dominante est orthodoxe, et pire que le pope, la femme du pope, qui, forte du statut de son mari, régente, ordonne, assène. Vous trouverez de belles scènes dans ce livre, telle la conception de Myriam. Comment Myriam a-t-elle été conçue ? C'est un très beau texte. La vie et les confidences des jeunes filles. Vie et propos qui paraissent de tous les lieux et de tous les temps. Et puis, il y a la rencontre. La rencontre avec un homme, un peu classique pour une jeune fille, vous allez me dire. Pas tant que cela, il est plus âgé. Il est vendeur de limonade. Et surtout, il est de l'autre côté du Bosphore. Il s'appelle Ahmed. Il est d'une autre religion. Les éléments sont réunis pour que l'intolérance s'instille. Le nom, le pays, la religion, tout se met en place. Myriam a un très fort caractère et impose son choix. Sa mère la rejette. La violence des mots, des faits, est presque insoutenable. Vous lirez. Comment rejeter son enfant pour une histoire de religion ? Le père ne sait pas affronter sa femme. La mère rejette sa fille. La communauté rejette Myriam. Le village rejette Myriam. La rumeur infâme court les rues. Et l'enfant de Myriam, vous lirez. L'auteur interroge les acteurs de ce drame qui se déroule et qui paraît lui aussi hors du temps et des lieux. On est un peu surpris, mais voilà. Comment peut-on faire? Comment une mère peut-elle maudire sa fille? La folie de l'intolérance et la haine religieuse. Alors, ils partent vers l'espoir, la beauté d'Istanbul. L'échange avec Ahmed, la confiance de deux êtres qui s'aiment. Ils ont un enfant. Ahmed travaille dur, il tombe malade, il meurt. Et Myriam veut vivre à Istanbul, mais là, à nouveau le rejet. Mais de la part de la famille de son conjoint cette fois-ci. C'est une femme, d'une autre religion. De l'autre côté du Bosphore, on est toujours de l'autre côté de quelque chose dans cette affaire. Putain dans son pays, catin à Istanbul. Comment vivre avec des enfants en bas âge? Seul, au risque de devenir une proie pour des appétits mâles. Comment mettre les enfants en sécurité? Il faut choisir. Des choix cornéliens. Ah, vous lirez aussi, là, il n'y a pas de mièvrerie, pas de conte de fées. Il y a des choix. Elle craint pour ses enfants. Peut-elle revenir dans son pays? Pourquoi faire? Cette étendue d'eau, le Bosphore, est pire qu'un abîme, car elle traduit la séparation, l'abandon. Certaines pages sont d'une intensité en noir et blanc, pas de couleur. Elles traduisent la profonde intensité des sentiments et des souffrances. Myriam, une femme qui se veut libre, est responsable de ses choix. L'auteur, ou l'autrice, Maria Kassimova-Moisset, est née dans une famille d'artistes et après des études de lettres à l'université de Sofia, elle collabore à différents journaux dans leur rubrique culturelle. Je conseille vraiment ce livre car il aborde la question du statut de la femme, la question des rapports de chaque côté de ce Bosphore, et il aborde la question de la religion et de l'intolérance qui peut naître de ces rapports. Je rappelle le titre, l'auteur et le titre. Maria Kassimova-Moisset, Rhapsodie balkanique, aux éditions des Sirtes, parution en 2023. Les textes que nous présentons, nous allons là recevoir Thierry Maricourt, c'est ça, Thierry? Oui, on va. Thierry va. Bon. Allô, Thierry? Allô?
Oui, allô?
Voilà, Thierry, bonjour, Francis. Bon, bonjour. Alors, ce Covid, ça va mieux?
Oui, oui, enfin, je ne sais pas si c'est un Covid, mais c'est, disons, je me sens bien crevé, j'ai les yeux qui piquent et tout ça, quoi. Mais ça va forcément mieux.
Bon, tant mieux. Alors, tu viens de publier un livre consacré à la jeunesse de Michel Ragon. Alors, Michel Ragon, dans le monde anarchiste, on connaît bien, mais Michel Ragon, on connaît aussi parce qu'il a écrit des livres qui ont eu un grand succès. Il était, si je me souviens bien, autodidacte, auteur de romans, d'essais, spécialiste de l'art et de l'architecture. Et puis, c'est un homme assez étonnant. Ce que je voudrais savoir d'ores et déjà, c'est pourquoi écrire sur une partie de la vie de Michel Ragon et pas sur l'ensemble de son œuvre, de sa biographie.
Alors, comme tu l'as souligné, Michel Ragon, on le retrouve dans plein de domaines très différents les uns des autres, hein, la peinture abstraite, l'architecture, le dessin d'humour, et puis l'histoire de la Vendée, et puis des romans qui sont des romans relativement classiques. Faire une biographie de Michel Ragon, c'était un travail énorme. J'ai préféré essayer de comprendre comment on pouvait être gamin dans un milieu modeste, et puis cette petite étincelle dont on parle souvent, qui un jour, voilà, ça s'allume en soi, et on se dit, la lecture, l'écriture, je vais essayer d'en faire ma vie, et je vais voir où ça va me mener, et je vais m'accrocher à ça pour pouvoir choisir. Voilà. C'est vraiment ces premières années, ce qui s'est déclenché dans sa tête, que j'ai voulu essayer de comprendre.
D'accord. Et sa situation d'autodidacte qui correspond un peu à la tienne, je crois, est-ce que c'est un des motifs de ton choix ?
Je ne dirais pas que c'est le motif prioritaire, mais c'est forcément un des motifs. Oui, je me suis retrouvé dans ce qu'il a pu faire, dans ce qu'il a pu être. Il y a un parcours qui est commun en partie, comme son parcours a été commun aussi en partie avec celui d'Henri Poulaille, son prédécesseur.
Ouais.
Voilà, il y a des Qu'est-ce que c'est que le savoir ? Enfin, à un moment dans son existence, quand on est très jeune, on peut découvrir ça et découvrir qu'avec le savoir, on peut essayer de faire autre chose de son existence que de subir au quotidien. Mmh. Voilà, savoir comme une arme. Et ça a été son cas pour Poulaille, ça a été le cas pour Michel Ragon, et ça a été aussi peut-être un peu mon cas aussi. Voilà, ça a été important.
Alors comment as-tu travaillé pour construire ce livre, des entretiens avec Michel, parce que tu l'as bien connu, des lectures de ses livres, de ses articles, comment as-tu opéré ?
Alors Michel Ragon avait écrit, il avait travaillé beaucoup autour de la littérature prolétarienne, et il avait écrit une histoire de la littérature prolétarienne dans laquelle il disait la littérature libertaire mériterait toute une étude. Mais c'était autre chose que la littérature prolétarienne. Donc à un moment, alors j'étais tout jeune, j'ai eu envie de relever le défi et de consacrer un gros bouquin à cette littérature libertaire. C'était dans les années 80 et le bouquin est sorti en 1990. Oui. Et à cette occasion, j'ai rencontré tous les auteurs libertaires encore en vie, dont il y en avait un certain nombre, mais dont Michel Ragon, je lui ai écrit tout bêtement, donc au milieu des années 80. J'ai écrit, enfin, j'ai un certain éditeur qui lui a fait parvenir le courrier, et il m'a téléphoné aussitôt, et voilà. Ça a été, c'était quelqu'un de très chaleureux, très gentil, très ouvert, et qui avait vraiment envie de partager toutes ses expériences intellectuelles. Et voilà, il y a toutes ces rencontres qui m'ont permis de cerner le bonhomme, de comprendre un petit peu où il voulait aller, ce qu'il avait essayé de faire de sa vie. Ces rencontres, pour moi, ça a vraiment été prioritaire. Et puis, ça m'a donné aussi, le bonhomme n'était pas abstrait, quoi. C'était quelqu'un que j'avais eu en face de moi, que j'avais pu apprécier. Après, il y avait aussi, bien sûr, toutes ces lectures, parce qu'en écrivant cette histoire de la littérature libertaire, j'ai tenu à lire tous les écrivains que je recensais, et de façon exhaustive. Donc j'ai lu Michel Ragon, j'ai quasiment tout lu ce qu'il a pu écrire, et c'est énorme, et ça m'a permis vraiment de rentrer dans son œuvre. Bon, il y a tout ça, et puis après, il y a une correspondance assez importante aussi, hein, y a toutes ces petites choses, les rencontres au quotidien, enfin... Tout ça, quoi.
Et l'ensemble de ces textes, on les retrouve en partie dans ton livre, qui est émaillé de toute une série de citations comme ça. Je trouve ça assez intéressant de procéder ainsi, plutôt que de faire un texte qui est uniquement de toi, quoi. C'est bon. D'ailleurs, tu parlais du livre sur l'histoire de la littérature libertaire, là, que tu as sorti chez Albin Michel, je crois.
Oui,
à l'époque, oui. J'ai eu le plaisir de le retrouver dans ma bibliothèque, donc ça m'amuse de voir que déjà, c'est dans les années 80 que tu avais publié ce livre.
Il est sorti en 90, hein, je crois.
Alors, tu en as été proche de Michel Ragon, comment se comportait-il sur les photos, et notamment une où il est face au micro de Radio Libertaire, il paraît simple et enjoué, qu'était-il ?
Oui, je crois qu'il y a une bonne façon de l'écrire en deux mots, ça, simple et enjoué. Enfin, il était Michel Ragon, tout simplement. Bon, je sais bien, quand on voit des certaines émissions à la télé, quand on voit des écrivains avec leur foulard autour du cou, leur chapeau, leur costume, enfin leur façon d'être et de paraître, il était à l'opposé de ça. C'était un gamin d'un milieu modeste qui avait grandi et qui s'était forgé lui-même grâce au savoir, grâce aux rencontres qu'il avait pu faire, grâce au militantisme, grâce à toutes ces choses qu'on connaît. Et il avait eu une très grande reconnaissance comme critique d'art, comme critique d'architecture, comme écrivain aussi. Mais pour lui, il en a jamais tiré gloire. Je crois que la gloire, il s'en fichait complètement. Il est vraiment resté ce gamin. Alors, ce gamin grandit, ce gamin devenu adulte, ce gamin avec une érudition phénoménale. S'il pouvait épater quelqu'un, c'était avec son érudition et puis les connexions qu'il faisait grâce à son érudition. C'était tout, quoi. Et alors, effectivement, quand on voit sur des photos, et notamment dans les studios de Radio Libertaire, je pense qu'on parle un peu des mêmes photos qu'on a vu circuler là ou là. Il était derrière le micro, comme toi, moi, enfin, comme on pouvait être, si on savait pas que c'était Michel Aragon, c'était un individu lambda. Voilà, et puis en même temps, alors c'était une somme de savoir aussi, mais ça, il fallait le connaître.
Oui, tout à fait. Et un mot peut-être sur le milieu de son enfance, Fontenay-le-Comte, sa grand-mère, sa mère, qui a beaucoup compté pour lui.
Il vient d'un milieu. Son père est mort alors que Michel avait 5 ans. Son père était militaire qui bossait pour la coloniale, comme on disait à l'époque. Et puis alcoolique, ouais, il est mort d'une cirrhose. Michel l'a donc très peu connu. Par contre, Michel a découvert plus tard que ce père lui avait donné une demi-sœur.
C'était un grand classique, oui.
Ouais. Voilà, c'était un grand classique, oui. Ça a donné un bouquin, Ma sœur aux yeux d'Asie, qui est un bouquin fameux pour comprendre ce qu'a été la colonisation d'une partie de l'Asie à l'époque, ou d'autres parties du monde, comment des gens très très pauvres ou très modestes pouvaient s'engager dans l'armée en espérant un peu monter socialement. Il y avait tout ce côté-là. Sa mère, Michel, était gardienne d'immeuble, et puis il y avait tout un côté aussi dans sa famille. Alors il y avait côté petit paysan en Vendée, mais vraiment tout, tout petit paysan, et puis côté aussi artisan, bourrelier, tout s'attirait le diable par la queue. Mais alors Michel l'a dit dans plusieurs de ses livres, c'était la pauvreté, mais pas la misère.
Oui,
si on fait une différence, voilà. Il y avait quelques bouquins chez lui, enfin il vivait avec sa mère chez les grands-parents maternels. Il y avait quelques bouquins, mais enfin très très peu, hein, mais histoire de dire on n'est pas tout à fait inculte et le bouquin c'est quelque chose d'important. Et Michel a lu tout petit tout ce qui tombait sous la main, donc des ouvrages religieux, mais aussi des classiques.
Il lisait tout, c'est d'où le titre, La rage de lire.
Il lisait tout, absolument tout, mais comme beaucoup d'autodidactes, hein, on ne choisit pas, on lit le meilleur et le pire, on s'imprègne de tout ça, et puis après, on fait des choix, mais bien, c'est tardif tout ça. Mais dans un premier temps, on lit tout, les bulletins paroissiaux, en ce qui le concerne, et puis en ce qui concerne Poulal, c'était aussi toute une littérature libertaire que son père dissimulait dans une malle. Voilà, selon les parcours, vraiment le meilleur et le pire.
Et alors, quand il arrive à Nantes, parce qu'il va quitter Fontenay-le-Comte, et quand il arrive à Nantes, là, il ressent le mépris, je dirais le mépris de classe, et ça va traduire une transition vers l'anarchisme à ce moment-là.
Bah, il ressent, oui, et puis, enfin, avant de méprimer, il est complètement désemparé. Parce qu'il faut tenir compte, c'était une toute petite ville, tout le monde se connaissait, il avait sa famille, voilà, il avait quand même quelques camarades d'école, il était chez lui. À Nantes, il connaît personne, et puis c'est pour lui la grande ville, aujourd'hui on pourrait parler de mégapole, quoi. Bon, il était perdu, il n'avait aucun repère. Mais comme il fallait qu'il bosse, il a très tôt trouvé des métiers de à ce qu'on appelait à l'époque de saute-ruisseau.
Oui.
De livreur, on parlera même d'Uber livreur ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'il a été forcé de découvrir la ville par lui-même et d'en connaître tous les quartiers.
Oui, au début, il était complètement perdu, c'est ce que tu racontes.
Il était complètement perdu, mais il a dessiné des plans dans sa tête, et puis très vite, il connaissait la ville sur le fond de ses poches, et puis du coup, il a découvert aussi les librairies, les galeries d'art, les bibliothèques, enfin tous ces lieux où on pouvait découvrir le savoir, où on pouvait apprendre sans avoir à débourser le moindre centime. Voilà. Mais à chaque fois qu'il s'introduisait dans ces lieux, il n'était pas chez lui. Bien sûr, quand il poussait la porte d'une galerie d'art, parce que les peintures qu'il voyait en vitrine, ça l'étonnait, ça le subjuguait. Il essayait de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, toutes ces couleurs, ces traits sur le papier. Il rentrait, qu'il était un gamin plutôt timide, mais il poussait la porte, il rentrait, il a regardé, il essayait de poser des questions, mais il se faisait mettre dehors parce que c'était pas sa place. Qu'est-ce qu'un gamin faisait là?
Mais cette rencontre avec la peinture, elle est fondamentale. C'est un autre aspect, puisque il va devenir un grand critique d'art. Et j'ai lu notamment les ateliers de Soulages, un petit ouvrage qu'il a publié. Bon, c'est quand même extrêmement réfléchi, c'est dense. Et là, quand il rencontre la peinture, au début, c'est le choc. Oui, il est viré, tu le racontes bien dans le livre. Mais il exerce aussi son sens critique et il le fait à l'instinct, parce qu'il n'a pas suivi de cours d'histoire de l'art, par exemple. Donc il le fait comme ça, c'est sa culture, c'est son identité.
Il fait complètement à l'instinct, oui. Et c'est ce qui me semble intéressant, parce que beaucoup vont parler de culture de peinture après avoir suivi des cours à l'université, après avoir appris qui étaient les maîtres et puis qui n'étaient pas, les courants, toutes ces choses-là, enfin, ce qu'il faut retenir ou ce qu'il ne faut pas retenir. Tandis que lui, non, jamais, il a toujours fait ça. Et il a toujours eu plutôt bon goût, parce que à chaque fois, quand il s'arrêtait devant un peintre, c'était des peintres qui, après, alors des années après, parfois des dizaines d'années après, mais ont acquis une grande célébrité. Alors bien sûr, oui, Soulages, le premier, mais beaucoup d'autres aussi. Cette façon de faire, enfin ça a été vraiment la façon de Ragon, ça, de faire beaucoup plus que Poulaille qui était son maître, finalement son maître spirituel. Mais Poulaille s'attachait à la notion de classe, et puis alors avec tout ce que ça veut dire de très intéressant, mais aussi de frustrant à un certain moment, de carcan. Ragon s'est beaucoup plutôt libéré, il aimait pas. Alors bien sûr, si on parle de peinture, si le peintre était comme lui, issu d'un milieu modeste, il allait être sensible à certaines choses qu'il allait ressentir. Mais il tenait à ne pas s'arrêter à cette origine sociale, comme il a fait avec la littérature aussi. Il s'est intéressé aux écrivains prolétariens, mais pas que.
Alors, il monte à Paris en 1945, et là, c'est la rencontre avec cette littérature prolétarienne. Il semble rapidement s'intégrer. Je crois que Poulaille lui a confié très rapidement des responsabilités.
Alors, mais il n'est pas arrivé non plus comme ça, sans connaître personne. Quand il a commencé à lire, enfin vraiment lire, en sachant ce qu'on peut mettre derrière les mots, il a tenu, alors là il était à Nantes, il était à peine ado, Il a tenu à correspondre avec les écrivains qui étaient encore, qui étaient vivants. Alors c'était avec Martinet, c'était avec Ludovic Massé, c'était bien sûr avec Poulaille. Enfin, il y avait un certain nombre d'auteurs qui étaient vivants, qui participaient à ce qu'on appelait la littérature prolétarienne, hein, sous l'égide de Poulaille. Et toute une correspondance est établie, ce qui fait que quand le jeune Ragon est arrivé à Paris en 45, eh ben, il est allé directement rue des Saints-Pères, où Poulaille avait son bureau, il était directeur du service de presse des éditions Grasset. Voilà, et aussitôt Ragon donc a rencontré Poulaille, qui était un homme très chaleureux, lui a présenté tous les écrivains prolétariens de l'époque, enfin tout au moins tous ceux qui se trouvaient sur Paris. Et puis Poulaille, qui était par ailleurs un anarchiste revendiqué, lui a présenté également tout le monde du petit monde libertaire de l'époque. Alors c'était Louis Lecoing, c'était Maurice Joyeux, c'était Suisse Chevet, c'était plein de militants libertaires. Et ces deux aspects, la littérature prolétarienne et les militants libertaires, ça a vraiment Michel Ragon est entré dedans et ça lui a servi de marchepied, quoi. Avec ça, il avait Paris et puis le monde entier qui s'ouvrait devant lui.
Et son premier livre sort en 1946, Au matin de ma vie, c'est bien ça. Hein. C'est difficile de se lancer, c'est la timidité de l'autodidacte.
Oui, alors son premier livre, c'est un recueil, un très court recueil de poésie, hein, mais Poulaille a toujours, Poulaille Ragon plutôt, a toujours écrit de la poésie. Quand il était à Nantes, il écrivait déjà de la poésie, mais comme tous les autodidactes écrivent de la poésie, c'est difficile d'écrire, mais quand on maîtrise pas les règles de grammaire, de français, de syntaxe, toutes ces choses-là, on va d'abord écrire de la poésie parce que on se sent beaucoup plus à l'aise. On peut faire des erreurs et dire que finalement c'est des effets de style. Donc voilà, il a commencé par la poésie, mais et puis qu'écrire d'autre quand on est gamin et qu'on connaît pas du tout le monde de l'édition. Alors le monde de l'édition aujourd'hui, c'est vraiment un monde fermé, un monde de requins, un monde à tout ce qu'on veut. Mais à l'époque, au sortir de la Deuxième Guerre, c'était pas beaucoup mieux. C'était un monde très très fermé aussi. Heureusement qu'il y avait des gens comme Poulaille qui étaient là, qui étaient bien ancrés dedans, qui ont permis à de jeunes auteurs et des auteurs surtout qui n'étaient pas passés par l'université, qui pouvaient pas montrer patte blanche, d'essayer de publier, quoi.
Alors, il est libraire dans le 16e arrondissement, il est bouquiniste sur les quais de Seine. J'ai l'impression, au fil des pages de ton livre, qu'il se forge sa personnalité, sa culture. Et il insiste aussi sur l'accès à la culture pour concevoir un autre projet de société. Il y a toujours un engagement militant chez Ragon.
Mais d'un bout à l'autre de sa vie, il y a eu un engagement. Alors, au début, tout à l'heure, tu me demandais est-ce qu'il avait pris conscience des idées anarchistes ou de ces choses-là à Nantes. Je pense qu'il en a pris conscience, mais viscéralement. À Nantes, il s'est pas dit, enfin, on se dit pas anarchiste à 15 ans. Ou alors ça signifie pas grand chose et puis c'est un effet de mode et puis ça, on passe dessus après. Mais en revanche, très tôt il s'est senti appartenir à une classe qui était une classe d'humiliés, une classe la classe ouvrière et paysanne, la classe des oubliés, comme diraient certains. Et très tôt, il s'est senti, il s'est pas du tout senti du côté du Parti communiste ou de ces forces-là qui voulaient recréer un autre type d'oppression. Pour lui, faire partie d'une classe au bas de l'échelle sociale, si on peut dire, c'était forcément changer le monde et essayer de mettre en place un monde sans hiérarchie, sans pouvoir, donc sans salariat, un monde avec un fonctionnement libertaire. Alors, il n'a pas mis les mots tout de suite dessus, mais c'était ça en germe dans son esprit. Et la fréquentation des militants libertaires, hein, je parle Joyeux, mais ou Le Coin, ou Armand Robin, ou beaucoup d'autres, ça lui a permis aussi de là de comprendre à quoi correspondaient les idées qui étaient en germe chez lui, et de mettre une étiquette dessus et de pouvoir les défendre.
Mmh. Et bon, alors une autre passion, Michel Ragon, la musique, et particulièrement la musique classique. Ça, je ne savais pas qu'il était passionné de musique, particulièrement Gabriel Fauré et les chants grégoriens d'ailleurs. Il a écrit, il a publié sur la musique ?
Il a écrit quelques articles, mais très peu. Bah, je crois que Michel Ragon, il a eu une vie extrêmement remplie, une vie, il a publié énormément de bouquins, mais s'il avait eu deux vies, s'il avait eu trois vies, il les aurait remplies de la même façon, mais en passant à d'autres sujets. Il a écrit beaucoup de choses sur l'art abstrait, sur l'architecture, son dessin d'humour aussi, c'est passionnant, tout son travail sur l'humour, enfin, qui est plus que jamais d'actualité aujourd'hui, où on manque d'humour partout, où les humoristes sont tués. Mais il y a bien un domaine sur lequel il a écrit trop peu, et je pense qu'il aurait pu aussi écrire de très beaux ouvrages, c'est la musique classique ou contemporaine. Oui, il aimait beaucoup, enfin, tout ce qui était aussi chant. Alors, mais c'était pas l'aspect religieux qui l'intéressait, c'était l'élévation de la spiritualité, si on peut dire.
Hein. Et la beauté de la voix.
Et puis la beauté de la voix, bien sûr, qui allait avec. Et c'est cet aspect-là.
Il y a une citation dans ton livre, « J'aime les fous ». C'est lui qui a cette phrase. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça s'adresse un peu aux anards aussi ?
Mais évidemment, il faut être fou pour être anarchiste. Il faut être fou, il faut être extrêmement conscient, au contraire, mais ça revient un peu au même. Faut être en dehors des clous, faut accepter de s'en prendre plein les dents, faut accepter de se confronter au pouvoir, à tous les pouvoirs. Enfin, quelqu'un qui aspire à une petite vie rangée, et puis à sa retraite, et puis à ses congés payés et tout ça, mais ne sera jamais anarchiste, c'est pas possible. À un moment, faut être capable de dire, c'est Denis Langlois qui écrivait dans son bouquin Le Cachot, celui qui n'a jamais dit non une fois dans sa vie n'est pas un homme, enfin un homme avec un grand H, n'est pas un être humain. Mais effectivement, il faut être capable de dire non, mais non pas une fois, mais parce que c'était qu'une fois, mais c'est tous les jours que le pouvoir se manifeste. Et être capable de dire non, c'est être capable, bah oui, d'être atteint d'un minimum de folie. Mais c'est cette folie, hein, dont je parlais au début, cette petite étincelle qui s'allume chez un gamin. Alors, gamin, là, dans mon bouquin, c'est Michel Ragon, mais ça, heureusement qu'elle s'allume chez d'autres gamins et ça va se manifester autrement. Mais de temps en temps, on rencontre des gamins, alors ça peut nous concerner nous directement, mais c'est aussi des fois, on entend parler d'eux. Des gamins chez qui, bah, très très tôt, il y a une petite étincelle dans leur tête, et puis voilà, ils vont dire je ferai ça, et ça me tient à cœur, et qu'importe si on se fout de ma gueule, et qu'importe si on me fait des croche-pieds, j'y parviendrai parce que j'en ai envie. Pour moi, l'anarchie, elle commence là. Voilà. Alors certains vont mettre le mot ou anarchie dessus, ou éventuellement libertaire, d'autres ne se revendiqueront jamais de cette idéologie, mais pour moi, ça, c'est anarchiste en soi. C'est pour ça que je me suis intéressé à la littérature prolétarienne, parce que pour moi, en soi, elle est anarchiste.
Alors, parmi tous les ouvrages de Michel Ragon, est-ce que tu pourrais nous en recommander deux ou trois qui permettraient d'approfondir sa personnalité ? Bah, évidemment, des livres en complément du tien.
Oui, en retournant deux ou trois ou vingt ou trente ou beaucoup, mais bah, bien sûr, l'ouvrage incontournable quand on est un artiste, c'est La mémoire des vaincus.
Oui.
Où il met en Bruxelles, anarchiste tout au long du XXe siècle, du début du XXe aux années 1980. On peut reconnaître plein de personnages devant Fred Barthélémy, qui est le héros de La mémoire des vaincus. On peut reconnaître Henri Poulenc, bien sûr. On peut reconnaître Mépicré aussi, qui était une femme et qui a un parcours très, très intéressant. Louis Lecoing, Gaston Leval, et puis beaucoup d'autres. J'ai appris, et puis on me redit ça régulièrement, que La mémoire de l'invaincu est un bouquin qui, dans les librairies, alors ça vaut pour Publico, récemment j'étais à la librairie L'Étoile Noire à Laon, où on me disait que là-bas, qu'ils s'en vendaient une dizaine d'exemplaires par mois de La mémoire de l'invaincu, c'est quand même pas mal.
C'est pas mal. Pour un livre qui est sorti il y a quelques années, oui.
Pour un livre qui est sorti en 90 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est le bouquin à lire de Michel Ragon quand on a une conscience anarchiste.
Et même alors, si on n'a pas une conscience anarchiste, si on veut découvrir la pensée de l'auteur.
La pensée de l'auteur, et puis si on est aussi intéressé par les idées politiques, tout simplement, libertaires notamment, bien sûr, mais pas que. C'est aussi une très bonne introduction à la pensée socialiste au sens large, française et bien plus que ça. Mais le livre s'appelle La mémoire des vaincus, et je sais que quand il est sorti, beaucoup avaient fait la critique, mais Michel Ragon, pourquoi les vaincus? On n'est pas évaincu, voilà, on n'est pas que ça. Michel avait très bien répondu, mais je pense que si, on est hélas trop souvent les vaincus de l'histoire. On est vaincus, mais quelque part, ça se retourne aussi. Les idées qu'on a pu défendre il y a très longtemps, je pense au féminisme, je pense à l'écologie, je pense à la lutte pour le droit à l'avortement ou des choses comme ça, elles ont été reprises après par quasiment tout le monde aujourd'hui, comme quoi les vaincus à un certain moment ne sont plus après. Et Michel Ragon, quand il utilise ce titre, c'est ce qu'il voulait dire, c'était que on n'est pas d'éternel vaincu, on l'est à un moment, mais voilà. Et moi, je termine mon livre, Une rage de lire, avec un clin d'œil. Je fais parler Michel Ragon et je dis, je serai la mémoire des vaincus. Voilà, on est ce rôle qu'on veut nous faire jouer à un moment, celui de vaincu, à partir du moment où on prend la parole, on l'est plus tout à fait.
Alors, et justement, est-ce qu'il y aura une suite à Une rage de lire? Parce que là, c'est la jeunesse de Michel Ragon. Mais tu prépares la suite?
C'est une bonne question, parce que quand on écrit un livre comme ça, on a forcément envie de continuer le parcours du personnage. Mais non, je pense pas qu'il y aura une suite. Il y a une biographie de Michel Ragon qui va sortir prochainement, un gros bouquin qui sortira chez Albin Michel, qui n'est pas de moi. Je pense que la suite, elle sera là.
D'accord. Ben, écoute, merci en tout cas pour cet échange. Je rappelle le titre de ton livre, La rage de lire, le jeune Michel Ragon, publié aux éditions L'Échappée. Et puis, bon, on en a parlé à l'instant, Michel Ragon, j'ai découvert qu'il était passionné par Gabriel Fauré et les chants grégoriens. On a écouté des pièces de Gabriel Fauré dans une émission sur Radio Libertaire qui s'appelle Un classique, s'il vous plaît. Là, je voudrais boucler notre entretien par tout simplement un chant grégorien. Le chœur des moines de l'abbaye Ligugé, pas loin de... Enfin, c'est vers Poitiers. Alma Redemptoris Mater. Merci Thierry, et à bientôt.
Très, très bon choix, et merci pour cette occasion de parler sur Radio Libertaire.
Allez, au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Frédéric.
Oh,
Depuis le début de l'émission, nous mentionnons les titres, les ouvrages commentés. Vous les retrouverez évidemment à Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Vous retrouverez aussi certains de nos commentaires sur la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Marie nous a rejoint pour nous parler d'un livre sur la qui touche particulièrement la Bretagne, à savoir les algues vertes. Vas-y.
Oui, alors il s'agit d'une bande dessinée intitulée Algues vertes, l'histoire interdite. Donc dessinée par Pierre Vanov et Inès Leroux, la journaliste qui a enquêté pendant plusieurs années sur ce phénomène. Et donc, c'est paru aux éditions Delcourt en juin 2019. Hein, donc, c'est pas tout récent, mais effectivement, cette bande dessinée a eu pas mal de répercussions, car les algues vertes sont un sujet particulièrement sensible, hein, qui secoue la Bretagne depuis une bonne cinquantaine d'années et divise les Bretons à bien des égards, puisque les intérêts des uns nuisent à la santé des autres, comme c'est souvent le cas lorsqu'on aborde les catastrophes environnementales qui sont directement liées à la surexploitation agricole et industrielle des ressources naturelles. Les algues vertes, en l'occurrence, ce sont, donc, pour synthétiser un peu, hein, des algues qui, en fait, lorsqu'elles elles poussent sur le littoral, et lorsqu'elles se décomposent, donc à grande vitesse, hein, généralement au bout de même pas 48 heures, elle libère un gaz toxique et putride appelé l'hydrogène sulfuré, le fameux H2S, qui, inhalé à forte dose, même dans un laps de temps relativement court, hein, s'avère mortel pour l'espèce humaine et animale. Ce fameux gaz toxique, donc c'est pas... voilà, les algues vertes en soi, ça c'est pas le problème, mais donc en fait, le gaz, il a pas une origine naturelle, en fait, il est produit à partir des déversements de phosphore et d'azote, issus principalement des nombreux élevages porcins sur les baies de Lannion et de Saint-Brieuc, via les rivières qui sont gorgées donc de ces substances chimiques. Hein. Et ce phénomène, d'après les conclusions du scientifique Joël Kropp en 1977, hein, déjà, est directement lié donc à l'activité agricole intensive en Bretagne, hein, et ce depuis les années 1960, hein, et la modernisation du système agricole en France. Mais malheureusement, ce discours reste inaudible, hein, et depuis plus de 20 ans, une inquiétante omerta perdure au sujet de ces marées vertes, hein, ces accumulations d'algues vertes en nombre incalculable. Et en fait, ça permet aux industriels de se remplir toujours un peu plus les poches, hein, cette omerta. Mais ce, au détriment des victimes intoxiquées, hein, qu'elles soient humaines ou animales, elles se comptent par dizaines. Et ça ne vient pas plus inquiéter que ça les autorités sanitaires et environnementales. Le désastre, bien sûr, et sur l'échelle environnementale particulièrement inquiétant, puisque les algues vertes sont très invasives. Elles perturbent les écosystèmes marins en asphyxiant la faune et la flore censées se développer en basse profondeur, en alarmant en fait sur la trentaine de morts de sangliers sur les berges du Gouessant dans les Côtes d'Armor. Les scientifiques et associations luttant contre la prolifération des algues vertes en Bretagne sont accusés de radicalisme écologique par le lobby agricole notamment, et tout un tas de syndicats évidemment d'agriculteurs bretons. Et donc en fait, c'est clairement une espèce de mafia, hein, qui règne depuis des années sur ce milieu-là, et les magouilles en tout genre sont vraiment très très nombreuses. Comme je vous ai dit, la journaliste Inès Leroux a été victime d'ailleurs de... la journaliste Inès Leroux qui a investigué, hein, pendant des années sur les algues vertes, a été victime de nombreuses tentatives d'intimidation de la part du lobby breton, ce qui a d'ailleurs nuit à sa carrière professionnelle, sa vie privée. Hein, elle le racontait vraiment très très bien dans plusieurs émissions que j'ai eu l'occasion d'écouter sur France Culture, etc. Et donc les algues vertes, en fait, ne sont pas uniquement, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas propres à la Bretagne. Hein. En fait, il commence à prendre de l'ampleur également dans une grosse partie de l'ouest de la France, la Seine-Maritime, la Charente-Maritime. Ce sont des régions donc, qui commencent à être bien touchées par cette catastrophe environnementale, parce que c'est une catastrophe environnementale qui s'amplifie avec le réchauffement climatique. Et cela, bien évidemment, à long terme, va engendrer des problèmes économiques dans les régions concernées. Hein. Il va y avoir une baisse de tourisme évident. Et puis, le plus important, bien sûr, les problèmes sanitaires. Car les habitants des côtes qui sont contaminés par les algues vertes présentent pour certains des symptômes lorsqu'il y a des vents. Parce que l'Ouest est quand même très très touché par des grosses rafales de vent régulièrement à chaque saison de l'année. Et en fait, ces gaz toxiques sont ramenés vers les habitations et donc les habitants des maisons proches qui sont sur les côtes respirent ces gaz toxiques et présentent des symptômes comme des maux de tête, des nausées, etc. Donc on voit bien que ces gaz toxiques ne sont pas uniquement dangereux pour les gens qui marchent sur ces algues vertes. Enfin, c'est aussi un vrai, vrai problème sanitaire. Et donc ça, c'est aussi très, très bien démontré dans cette bande dessinée. Que faut-il faire pour essayer d'éradiquer ce phénomène? Bah, finalement, à part changer le modèle agroéconomique actuel, voilà, c'est la seule vraie,
solution.
Voilà, à long terme, c'est la seule vraie solution.
Bouquin, Eddie, tu nous rappelles
oui,
le titre,
alors, l'auteur. Algues vertes, l'histoire interdite, de Inès Léraud et Pierre Ivanov, aux éditions Delcourt, collection La Revue Dessinée, est paru en juin 2019.
Très bien, merci. Et sans transition, comme on dit à la télé, Dominique.
Oui, bonsoir Francis.
Bonsoir, alors, quoi de neuf?
Alors, je vais présenter un livre de Mathieu Bellesi qui s'appelle « Attaquer la Terre et le Soleil », paru au Tripode en 2023.
Alors qui est-ce, monsieur?
Oui, alors c'est un monsieur qui est né à Limoges en 1953, qui a fait des études de géographie et qui a beaucoup voyagé, les États-Unis, le Mexique, Népal, Inde. Actuellement, il vit dans le sud de l'Italie et il s'est fait connaître, donc il a publié 16 romans et il s'est fait connaître par une trilogie sur l'Algérie. Et donc nous allons voir que Attaquer le Soleil, la Terre et le Soleil se passe en Algérie.
Alors que raconte ce livre?
Il a obtenu le prix littéraire du Monde en 2022 et le prix du livre Inter en 2023.
Alors, ce livre, alors, quid?
C'est l'histoire de Séraphine Jouot, une femme colon venue de Marseille avec son mari, ses trois enfants, sa sœur et son beau-frère. Donc, des familles françaises venues peupler une colonie agricole présentée comme une terre promise par l'État. Ils sont d'abord logés dans des tentes, puis on leur construit des maisons infâmes sur un petit lopin de terre peu fertile. Parallèlement, on suit l'histoire d'un soldat anonyme qui suit aveuglément les ordres d'un capitaine sanguinaire qui est venu apporter la civilisation à Nespa en Algérie. Alors, tout ça, c'est très violent. Hein, la violence n'a pas commencé avec la guerre d'Algérie. Elle s'exprime dans la vie de misère des premiers colons. Loin de ce qui leur avait été promis. Les conditions sont déplorables. Alors, ils vivent dans la boue, le froid, l'hiver, la canicule l'été, la saleté, les épidémies de choléra. Cette femme va perdre deux enfants. Les médecins, même les médecins militaires meurent. Ils manquent de tout. Ils ont peur. Ils sont attaqués, bien sûr, par les pillards, par les Arabes. Ils sont aussi mordus par des vipères à cornes et même attaqués par des lions du désert. Donc tout ça, c'est très joyeux.
Donc ça, c'est la violence qu'ont subi les colons français qui sont arrivés en Algérie. Hein. Bon, oui. Il y a eu d'autres violences aussi à l'égard du peuple algérien.
Oui, donc les soldats pillards qui se laissent aller à leur plus bas instinct, qui pillent et massacrent les villages. Je lis un petit extrait.
Oui.
Alors, Jusqu'à quand, Sainte Mère de Dieu, jusqu'à quand qu'il faudrait s'abriter du soleil et de la pluie et du vent sauvage gonflé des rugissements et non pas sous le toit rassurant des maisons que le gouvernement de la République nous avait promises, qui seraient un jour construites. Oh, qu'on se rassure, un de ces jours prochains. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, un de ces jours prochains? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ne savions-nous pas que les jours et les semaines et les mois ne comptaient pour rien dans le temps de cette Afrique de malheur?
Bon, le ton est bien donné. Alors, oui. Il n'y a pas un peu du Camus dans les propos de Mathieu si, Bellisi?
Si, l'auteur d'ailleurs reconnaît qu'il a été marqué par les trois pages du début du premier homme paru chez Gallimard en 1994, où on raconte l'arrivée des colons, dont son père. Donc, ils sont aussi sous des tentes, ils ont soif, ils ont chaud, et des soldats qui montent la garde. Donc, il y a du Camus aussi dans la présence constante du soleil et de la chaleur face à la violence des destins. Alors, je signale aussi qu'un film vient de sortir, il est sur les écrans en ce moment. Ça s'appelle De la conquête de François Prenant, qui raconte des témoignages parus par écrit là, entre 1830 et 1848. Donc, elle fait lire des acteurs sur ces témoignages. Et il y a donc des témoignages de fonctionnaires, de généraux, mais aussi d'Hugo, de Tocqueville et de Michelet. On est sur le même thème. Hein.
Oui. Alors, ça se déroule à quelle époque, le roman?
Alors, le roman, non, c'est 1845. Alors, la colonisation a déjà débuté en 1830, mais lui, il a retardé parce qu'il a considéré que les colons s'étaient d'abord installés dans les villes, très peu à la campagne. Ils sont arrivés plus tard.
Ouais. Et alors, c'est quoi? C'est un roman sur la désillusion coloniale?
Oui, c'est ça, tout à fait, parce que les familles se demandent ce qu'elles font là. Alors, elles invoquent Dieu en criant Sainte Mère et Sainte Mère de Dieu, même pour ceux qui ne sont pas croyants. Ça traduit vraiment l'effroi des populations. Et d'ailleurs, à la fin du roman, Séraphine renonce et rentre en France. Donc, c'est un échec pour cette famille.
Bon, de toute façon, l'expérience coloniale, c'est un échec lamentable. Il y a aussi un livre qui vient de sortir, je ne l'ai pas encore commencé, sur qui s'appelle « Colonisation au pluriel », qui a été publié au Seuil et qui, là, fait une approche plus intellectuelle, plus historique, sociologique, etc., sur les colonisations. Alors, le style de ce roman, parce que ce qui est toujours intéressant avec les romans, c'est nous faire réfléchir sur des questions sociales. Oui. Et là, quel est le style?
Alors, c'est un peu surprenant au départ, mais vraiment, on est plongé dedans. Il y a peu de ponctuation, peu de majuscules. On vit au rythme effréné des pensées des colons à qui se bousculent ou des soldats. Mais c'est très, très lisible parce qu'il va souvent à la ligne. C'est presque un poème en vers libre.
Hein.
Ah oui. Et les soldats utilisent des termes de soudard afin de se redonner du cœur au ventre. Et souvent, ils disent « nous ne sommes pas des anges ». Bon, donc, ça revient, il y a des répétitions. Hein, mais c'est très lisible.
Et, bon, donc, un livre qui a eu le prix Inter, c'est ça hein,
oui,
c'est...
oui, et le prix, ouais. Du journal Le Monde. Il a
d'accord.
eu deux prix.
Bon, donc, voilà. Un livre intéressant. On rappelle le titre.
Donc, c'est « Attaquer la Terre et le Soleil » de Mathieu Bellisi au Tripode.
D'accord, les éditions, le Tripode. Nous avons déjà eu l'occasion de parler au mois d'avril d'un livre sur Élisée Reclus qui était publié aux éditions Le Tripode. C'est une maison d'édition tout à fait intéressante.
Oui.
La prochaine fois, qu'est-ce que tu nous proposes?
Je vais faire quelque chose de plus léger parce que, bon, après Chalamov et la colonisation algérienne, donc je vais présenter L'allègement des vernis de Paul Saint-Brice. Toujours au Tripode, d'ailleurs.
Non, c'est pas au Tripode.
Ah non, c'est pas le Tripode.
Non, c'est aux éditions Philippe Ray, j'ai regardé ça.
Ah, d'accord.
Philippe Ray, qui d'ailleurs, lui aussi, ses éditions ont aussi sorti un livre sur la colonisation, l'histoire générale de la colonisation, Marie.
Oui, tout à fait.
Et donc là, l'allègement des vernis, ça porte sur quoi, ça?
Sur le métier de restaurateur des œuvres d'art et toutes les manipulations qui ont autour de ces restaurateurs.
C'est une critique
aussi du Louvre et du management du Louvre.
Ouais. Eh bien, écoute, c'est parfait tout ça. Merci.
Oui. Allez, bonsoir.
À bientôt. Au revoir. Nous poursuivrons. Nous poursuivons notre petit parcours. Je voudrais vous parler d'un livre. Alors bon, bah, Dominique a dit qu'elle avait son livre et son commentaire était un peu triste, c'est moins qu'on puisse dire. Mais celui dont je vais vous faire part n'est pas non plus très drôle, mais il est quand même intéressant. C'est le livre de Michel Perrault et Frédéric Chauveau. Tout le monde connaît Michel Perrault, c'est la grande historienne. Frédéric Chauveau, plus spécialiste et moins médiatique, et le livre s'appelle « Punir et comprendre » aux éditions Presse universitaire de Rennes. Vous savez, ouvrir un livre de Michel Perrault, c'est être sûr de goûter un grand moment d'érudition et d'aisance dans l'expression. Vous avez des livres très érudits qui sont d'un ennui mortel. Là, c'est un plaisir. Et les éditions des presses universitaires de Rennes publie un livre d'entretien entre Michel Perrault et Frédéric Chauveau, avec pour titre, donc, « Punir et comprendre ». La question de la prison dans notre société, vue par deux historiens de haut vol, c'est intéressant, mais il n'y a pas que cela, vous verrez. Chacun mobilise, c'est un régal, quantité de références, le lecteur curieux poursuivra son parcours au milieu des archives, des livres, de ce que Michel Foucault, en souriant, appelait la poussière qui s'envole des pages. Je trouve que la formule est jolie, la poussière qui s'envole des pages. Ça rejoint le texte, le livre « Au bord de l'effacement » d'Anouch Kuhn sur le goût de l'archive. Et les apports de Michel Perrault ne se limitent pas à la place de la femme dans l'histoire. Longtemps, la prison a été une sinistre réalité sociale et elle était passablement ignorée ou considérée avec dégoût. Une rencontre avec Michel Foucault va déclencher une réflexion intense chez Michel Perrault et sur une longue période. Alors, vous vous rappelez certainement « Surveiller et punir ». Donc c'est un clin d'œil, punir et comprendre, surveiller et punir, de Michel Foucault, publié en 75, constitue un ouvrage éclatant qui crée le débat. Pour ou contre, peu importe, mais il invite à la réflexion. Et j'apprécie le distinguo qu'opère Michel Perrault sur l'intellectuel spécifique qu'est Michel Foucault, mobilisé sur des actions, et l'intellectuel organique, dont Sartre est presque la caricature. Vous lirez ce passage, c'est très bien. Elle insiste sur le travail des historiens, donnant la parole aux obscurs. Et puis nous rentrons dans les prisons. Par exemple, alors nous allons rentrer dans le panopticon. Panopticon, c'est une conception architecturale peu usitée qui permettait à quelques gardiens de contrôler les faits et gestes des détenus. En fait, ils étaient au centre et de l'édifice, il pouvait tout contrôler. Ces propos sur la fonction du regard dans le contrôle, l'exercice du pouvoir, sont passionnants et font songer à Orwell. Ils obéissent car ils se savent observer. Je renverrai aussi à un livre que j'ai commenté dans la rubrique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire et qui s'appelle « L'attestation ». Eh bien, nous avons été pendant 55 jours observés, traqués, comme le disent les auteurs de cet ouvrage, que l'attestation, que je vous invite là aussi à lire, on en reparlera peut-être une autre fois, publié chez Anna Moza. Le parcours dans l'histoire que nous offre Michel Perrault, permet de réfléchir sur le rôle assigné à la prison avec des auteurs comme Tocqueville. Tocqueville, lui, est pessimiste sur l'amélioration des gens. On relève aussi le maintien de la censure. Elle développe sur le maintien de la censure. Elle développe aussi sur les conditions d'hygiène dénoncées par Villermé. Finalement, à quoi sert la prison ? À la défense de la société. C'est un échec sociétal. Et tout le monde s'en moque. Les rapports s'entassent et rien n'évolue car ce n'est pas une priorité. Vous visiterez la prison pour femmes de Saint-Lazare, transformée en médiathèque. Celle de la Petite Roquette, devenue un parc près du Père-Lachaise. Le passage consacré aux faits divers fait songer aux ouvrages du regretté Dominique Khalifa. Je pense à l'ouvrage Hommage, faits divers et vie déviante, qui a été édité au CNRS édition en 2022, ou encore le livre de Maxou, Chanter le crime, canard sanglant et complainte tragique, publié, lui, aux éditions Bleu Autour. Vous lirez l'affaire Weidmann et l'hystérie de la foule devant la mise à mort, ou encore l'affaire Troppmann, et c'est assez étonnant, sans oublier évidemment l'affaire Pierre Rivière, analysée brillamment toujours par Michel Foucault. Deux points du livre aussi méritent l'attention, et vous verrez, c'est un petit bouquin, c'est un genre que sais-je, hein, c'est pas un pinsum de 800 pages. Deux points méritent l'attention. L'affaire de Bruyères-en-Artois, où sans grand sérieux dans l'enquête, on a accusé un bourgeois, un notaire, d'avoir assassiné une fille du peuple. Bah oui, sauf que c'était pas vrai. Et on a aussi, dans le texte, toute une réflexion sur l'évolution de la conception de certaines infractions dans l'histoire, dans l'évolution de l'histoire. Oui, un petit ouvrage très dense, dont chaque page invite à poursuivre la réflexion avec d'autres auteurs. Vous avez vu que là, on en a déjà cité toute une série. Il faut vraiment lire ce petit livre. Michel Perrault et Frédéric Chauveau, Punir et comprendre, aux éditions Presse universitaire de Rennes. C'est une publication 2023 de cette année. Eh bien, mes chers amis, quelques livres que nous souhaitions vous présenter. C'est fini aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Dans 15 jours, le mercredi 25 octobre 2023, nous recevrons Vincent Chabot, sociologue, pour nous parler de son ouvrage « Le livre d'occasion ». Sociologie d'un commerce en transition, aux éditions Presse universitaire de Lyon, décidément, Presse universitaire de Rennes, Presse universitaire de Lyon. D'ici là, bonne lecture, et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. Frédéric.
Jatte, avec la peur qui prend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître, le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu.
Et tout en étant française, l'été tout de même anti-baise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir anti-baise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie, avanie et framboise, sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages. Pour en avoir davantage, elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Y a un institut d'Angers qui opère sans danger. Des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas, qu'elle avanie, avanie et framboise. Sont les mamelles du destin. Davantage, davantage, avantage, davantage, lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins. 2 x 10, permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après. Je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, avanie et mamelle sont les framboises du destin.
Parfois je repasse par hasard dans une ville où j'ai habité, mais c'est toujours 10 ans trop tard, et je n'y suis qu'en étranger. Les gens que j'aime et qui m'aimaient ont tellement changé de vie. Certains sont morts, d'autres partis, et je ne suis qu'un étranger. Je retourne dans mon quartier, j'y croise des gens, des regards qui glissent sur moi sans me voir. Regarde-t-on les étrangers?
Derrière ma porte, il y a des rires, des cris d'enfants. Et mes souvenirs ne pèsent rien contre le temps. Derrière ma porte, il y a des rires, des cris d'enfants. Et mes souvenirs ne pèsent rien contre le temps.
Il est des villes comme des phares, veillant au bord de ma mémoire. Les yeux fermés, je sais par cœur leur bruit, leur fièvre, leur couleur. Pourtant je ne reconnais plus la vieille rumeur de ma rue. Le marchand de vin est fermé, et je ne suis qu'un étranger.
Derrière ma porte, derrière ma porte, il y a des rires, des cris d'enfants. Et mes souvenirs ne pèsent rien contre le temps. Derrière ma porte, il y a des rires, des cris d'enfants. Et mes souvenirs ne pèsent rien contre le temps.
On gaspille son innocence à t'entraîner les trains, les bars. Et c'est ainsi que vient l'errance, ainsi que l'on se désempare.
Alors je vais chanter ce soir.
Femme libre.
Femme qui se libère.
Femme qui prenne la parole.
Femme qui témoigne.
Femme qui crée.
Femme qui se révolte.
Femme qui lutte.
C'est femme libre
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes, ensemble, ensemble libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Ces femmes libres sur Radio Libertaire. Bonjour à toutes et tous, c'est la 34e émission pour cette année 2023, émission féministe et anarchiste pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous sommes avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène et bonsoir Sandrine.
Et en compagnie de Sandrine Malika.
Bonsoir Hélène, bonsoir Sylvie.
Voilà, donc nous avons pensé qu'on pourrait dédier cette émission à plein de personnes, mais on va penser d'abord à Mahsa Jina Amini, puisque ça fait un petit peu plus d'1 an qu'elle a été assassinée, et que Narges Mohammadi, emprisonnée à plusieurs reprises depuis 1998, a en septembre 2023, en souvenir de Jina, et en compagnie de plusieurs co-détenus de la prison d'Evin, elle a brûlé son hijab pour marquer l'anniversaire donc de la mort de Mahsa Amini. C'est un beau symbole que le prix Nobel de la paix qui lui a été décerné cette année. Voilà. Donc c'est vrai que là il y a du lien entre cette mort de Mahsa Jina Amini et puis ce prix Nobel de la paix décerné à Narges Mohammadi. Et pour couronner le tout, Marjane Satrapi vient de coordonner avec 17 bédéistes un ouvrage qui s'intitule « Femme, vie, liberté ». Mais on aurait aussi envie de dédier cette émission à toutes les victimes de toutes les guerres. Et il y en a une de plus qui s'est ravivée, qui n'a jamais été éteinte, mais qui s'est ravivée dans la zone de Gaza. Voilà, toutes les victimes, parce que toutes les victimes, c'est des vies humaines, et il n'y a rien qui justifie qu'on tue quelqu'un d'autre. L'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre, on peut aller sur le blog émission-femmeslibres.blogspot.com et on peut ainsi réécouter les émissions, avoir le programme et on peut nous suivre sur Facebook et Miss Cloud et tout ça grâce à Sylvie. Alors, 5 temps dans cette émission. Premier temps, féminicide par compagnon ou ex. Deuxième temps, opus poétique, feuilles volantes de Monica Jornet, édition Liberté.